VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, au micro Camille Grosdidier et Anne Albertson. Au sommaire, en ce jeudi 13 août 2015,
l'émissaire spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit, et 4 autres envoyés internationaux ont appelé mercredi à la reprise du dialogue au Burundi.
Je crois qu'il faut bien sûr agir, mais cette action doit se traduire par un vrai dialogue politique.
Stéphane Dujarric, porte-parole de l'ONU.
République démocratique du Congo, le militant de la Lucha, porté disparu samedi dernier, a été libéré.
Apparemment, on m'avait confondu, alors c'était pas elle qu'on allait chercher, mais bon.
On entendra bienvenue Matumo.
Épidémie de rougeole en République démocratique du Congo.
Et l'ancien président américain Jimmy Carter, 90 ans, souffre d'un cancer. Mais tout d'abord, le journal. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit, et 4 autres envoyés internationaux ont appelé mercredi à la reprise du dialogue au Burundi. Le gouvernement burundais peut commencer à restaurer sa crédibilité en s'impliquant dans un dialogue politique inclusif avec les partis politiques, y compris l'opposition et les frondeurs du CNDD-FDD, ainsi que la société civile, ont-ils déclaré dans un communiqué conjoint.
Ses responsables ont appelé à une fin immédiate de la violence, au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la reprise d'un dialogue politique inclusif. La violence ne résoudra pas la crise politique au Burundi et ne générera que de l'instabilité, ont-ils souligné, en demandant au gouvernement burundais et aux autres parties prenantes politiques de reprendre immédiatement un dialogue politique transparent, inclusif et global.
Attaque du poste de police devant l'autogare de Bamako au Mali. Un policier grièvement blessé a par la suite succombé à ses blessures et le civil blessé est toujours hospitalisé. Kassim Traoré revient sur la tragédie.
Selon des témoins, c'est en début de soirée qu'un homme enturbanné est descendu d'un taxi. Il s'est dirigé vers le poste de police qui se trouve à l'entrée de l'autogare de Sogonico, la porte principale, et il a ouvert le feu sur les policiers en poste. Il s'en est suivi une grande panique, un véritable sauve-qui-peut, raconte un témoin. L'auteur des tirs a donc profité de la débandade pour fuir, transporté par un complice venu le chercher avec une moto Sanelli. Ils ont ainsi traversé la cour de l'autogare pour sortir par une autre porte de derrière, avant de disparaître dans la nature. Entre-temps, l'autogare s'est vidé de son monde. Les coxers, les revendeurs, les agents de compagnies de transport routier et les voyageurs ont tous fui pour se mettre à l'abri. C'est après que le policier grièvement blessé a été conduit dans un centre de santé où nous venons d'apprendre qu'il serait décédé. À noter que l'autogare de Sogonico est située à 2 pas de la maison du commissariat du 7e arrondissement de Bamako, à une rue d'une unité de protection civile et non loin de la gendarmerie de Sogonico, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, une épidémie de rougeole dans la région du Katanga a fait 315 morts sur environ 20 000 malades, selon l'agence Reuters. Plusieurs centaines de décès supplémentaires dus à la maladie n'ont sans doute pas été enregistrés comme tels en raison des difficultés à atteindre certaines zones touchées, a précisé le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. L'épidémie de rougeole dans la province du Katanga ne fait qu'empirer et gagner du terrain, souligne le rapport que s'est procuré Reuters.
Toujours en République démocratique du Congo, après l'adoption par le Sénat de la loi sur la répartition des sièges aux élections locales, municipales et urbaines, le député de l'opposition, Clément Kankou Bokassa, a annoncé qu'il va saisir ce jeudi la Cour constitutionnelle pour faire annuler ce vote pour inconstitutionnalité et non-respect du règlement intérieur du Sénat. Clément Kankou Bokassa l'a annoncé à Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La loi doit être respectée. Le règlement intérieur du Sénat a été violé par le Sénat quand ils ont convoqué une autre session extraordinaire après celle qui a accouché d'une souris, rappelez-vous. Donc aujourd'hui, nous estimons qu'il faut absolument que chacun de nous respecte les principes sur lesquels nous tous nous sommes mis d'accord. Il y a et la Constitution et le règlement intérieur. Alors là, nous allons mettre à l'épreuve la Cour constitutionnelle. Parce que c'est cette Cour qui va commencer à traiter les contentieux électoraux. Nous voulons qu'on nous dise si le Sénat avait le droit de convoquer une autre session extraordinaire. Et nous allons demander à ce qu'on puisse sursoir la promulgation de cette loi. Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'une loi qu'on a adoptée dans des conditions quasi illégales puisse être aujourd'hui promulguée par le chef de l'État. Le règlement intérieur du Sénat est clair, article 75. Quand une matière n'a pas été vidée dans une session extraordinaire, elle est renvoyée dans la session ordinaire. Nous voulons qu'on puisse nous prouver comment on a pu passer outre cette disposition réglementaire qui a été autorisée par la Cour suprême de justice.
En République centrafricaine, nouveau coup dur pour la MINUSCA, la force de stabilisation de l'ONU. Le général Babacar Gaye, chef de mission, vient de démissionner. Un départ intervenu après une fusillade mortelle parmi les casques bleus rwandais et des accusations de viol sur mineurs et d'homicide par des soldats onusiens au PK5. Les précisions de notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Le général Babacar Gaye a démissionné à la demande du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, suite aux multiples accusations de viol et d'homicide contre des casques bleus en Centrafrique. La MINUSCA est attristée par cette nouvelle parce que c'est une personnalité qui a fait preuve de leadership, a indiqué Amadou Touré, son porte-parole. C'est de nouveaux défis à relever, il faudrait serrer les reins, a encore précisé Amadou Touré. Le général sénégalais a été nommé en juin 2013, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique. C'est lui qui sera quelques mois plus tard à la tête de la mission de maintien de la paix de l'ONU, la MINUSCA déployée le 15 septembre 2014. Ces derniers jours, la MINUSCA a été au centre de l'actualité dans le pays, notamment avec une fusillade mortelle parmi les casques bleus rwandais, soldés par 6 morts et une dizaine de blessés, les accusations de l'Amnesty International sur le viol d'une fillette et les homicides d'un adolescent de 16 ans et de son père par des soldats onusiens dans le quartier de PK5. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Un Nigérian qui avait été recruté pour le compte d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique a été condamné mercredi à New York à 22 ans de prison. Lawal Olaniyi Babafemi, 35 ans, qui avait été extradé aux États-Unis en 2013, avait plaidé coupable en 2014 à Brooklyn d'avoir fourni un soutien matériel à l'organisation terroriste. Selon les procureurs américains, il avait voyagé deux fois au Yémen où il avait reçu un entraînement aux armes et avait travaillé avec Samir Khan, le fondateur américain du magazine d'Al-Qaïda en ligne, Inspire.
En Guinée, au Libéria et en Sierra Leone, les mesures d'hygiène imposées dans les écoles pour lutter contre le virus à Ebola ont permis de réduire considérablement les infections parmi les élèves et enseignants de ces pays. Le point avec Jacques Aristide.
5 millions d'enfants ont perdu plusieurs mois d'école dans ces trois pays où les classes ont été fermées entre juillet 2014 et début 2015, d'après l'UNICEF que cite l'AFP. Depuis la reprise des cours, des procédures strictes d'hygiène sont en vigueur. Les températures des élèves et des enseignants sont prises à l'entrée des écoles. Des millions de savonnettes et du chlore ont été distribués. Des stations de lavage des mains sont disponibles partout dans les établissements. Des dizaines de milliers d'enseignants et personnels administratifs ont été formés à la prévention. Depuis, aucun nouveau cas d'Ebola n'a été signalé, sauf au Libéria, où deux écoles ont été décontaminées après deux décès d'élèves en juin et en juillet. Mais les efforts déployés dans ce pays semblent avoir payé. Même la Guinée-Bissau, où aucun cas d'Ebola n'a été déclaré, a commencé à mettre en place des mesures similaires. Partie du sud de la Guinée, l'épidémie d'Ebola a fait plus de 11 000 morts en Afrique de l'Ouest.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ancien président américain Jimmy Carter, un démocrate, a annoncé mercredi qu'il souffre d'un cancer détecté lors d'une opération du foie. Monsieur Carter, 90 ans, a ajouté que ce cancer se propage au reste de son corps. Il a été contacté par le président Barack Obama qui lui a souhaité un rétablissement rapide et complet. Après son départ de la Maison-Blanche, Monsieur Carter s'était fait remarquer par ses campagnes en faveur de l'éradication du ver de Guinée, mais aussi de la démocratie ainsi que des droits des enfants et des femmes.
Le ministre iranien des Affaires étrangères a été reçu mercredi par le président syrien Bachar al-Assad à Damas. Mohammad Javad Zarif a appelé les pays de la région à combattre l'extrémisme et le terrorisme. Des détails avec Michel Joseph.
Pour M. Zarif, il est temps que ces pays et autres acteurs se soucient de la vérité, répondent aux aspirations du peuple syrien et travaillent à combattre l'extrémisme, le terrorisme et le confessionnalisme. L'Iran est le principal allié régional du régime de M. Assad, auquel Téhéran apporte un soutien financier et militaire dans un conflit qui a fait plus de 240 000 morts depuis 4 ans. Mohamed Javad Zarif a qualifié de bon, sans autre précision, ses entretiens avec M. Assad. Mais son numéro 2 avait annoncé la semaine dernière que Téhéran allait présenter au secrétaire général de l'ONU un nouveau plan de paix en Syrie. Un plan qui prévoit, selon une chaîne de télévision pro-syrienne de Beyrouth, un cessez-le-feu immédiat en Syrie. La formation d'un gouvernement d'unité nationale, l'amendement de la Constitution en vue d'assurer le droit des minorités ethniques et religieuses et la tenue d'élections supervisées par des observateurs internationaux. À noter qu'à Beyrouth, première étape de sa tournée actuelle, M. Zarif a rencontré le très influent Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah chiite libanais, dont des membres participent au combat en Syrie aux côtés des forces du régime de Bachar al-Assad.
Au moins 44 morts et des centaines de blessés en Chine suite à la détonation d'un entrepôt d'explosifs dans une zone industrielle du port septentrional de Tianjin.
Enfin, ici aux États-Unis, exécution d'un homme de 27 ans par injection létale dans la prison de Huntsville au Texas pour le meurtre d'un policier en 2009. Daniel Lopez avait renoncé à son droit de faire appel de sa condamnation et avait même tenté de faire accélérer son exécution. Il est le 528e condamné exécuté au Texas depuis le rétablissement de la peine de mort par la Cour suprême en 1976. Le Texas est l'État qui détient le record du nombre d'exécutions aux États-Unis.
On enchaîne avec la Minute Éco, présentation Jean-Roger Bion.
La devise sud-africaine a brièvement atteint hier mercredi son plus faible niveau face au dollar américain en 14 ans. À l'image des autres pays émergents, l'Afrique du Sud accuse le coût de la dévaluation surprise de la monnaie chinoise. Le rand est tombé à 12,875 unités pour un dollar sur les marchés ce 12 août, une baisse de 0,58% par rapport au coût enregistré la veille à la fermeture du marché new-yorkais. Il s'agit de son plus faible niveau depuis décembre 2001. Environ 11 millions d'œufs saisis dans le port de Luanda et illégalement importés en Angola vont être détruits. Le gouvernement angolais, qui souhaite encourager la consommation de produits locaux, applique des quotas depuis le 15 février sur l'importation de 27 produits différents, dont les œufs. Cette mesure a été rapidement mise en application. Elle vise à garantir la sécurité sanitaire et nutritionnelle de la population, selon le ministère du Commerce. La corruption est visible dans chaque secteur de la société, a estimé mercredi le chef de la Cour suprême du Malawi. C'était lors d'une réunion avec des agences anti-corruption, des ONG et des bailleurs de fonds internationaux organisés pour lutter contre ce fléau. Le Malawi subit encore les conséquences du Cashgate, un scandale financier le plus important de son histoire qui avait entraîné le gel de 150 millions de dollars d'aide internationale, réputée couvrir environ 40% du budget du Malawi.
Et maintenant, les sports avec Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Camille.
Le FC Barcelone, bien placé pour remporter le titre de meilleur joueur de l'année.
L'attaquant uruguayen du FC Barcelone, Luis Suarez, fait partie des trois finalistes pour l'obtention du trophée du meilleur joueur UEFA de la saison 2014-2015. Il figure aux côtés de son coéquipier Léo Messi et Cristiano Ronaldo, selon la liste des finalistes publiée hier par l'UEFA. Messi est le grandissime favori de cette cinquième édition du trophée du meilleur joueur, qui sera remis le 27 août à Monaco, en marge du tirage au sort de la phase de groupe de Ligue des Champions. L'Argentin avait déjà obtenu cette récompense en 2011 lors de la première édition, avant que ne lui succèdent Andrés Iniesta en 2012, Franck Ribéry en 2013 et l'année dernière Cristiano Ronaldo.
On enchaîne avec le tennis. Djokovic était en forme.
Le numéro 1 mondial Novak Djokovic a réussi son premier match depuis son triomphe à Wimbledon, en se qualifiant pour le deuxième tour du Masters de Montréal. Face au solide Tomas Bellucci, 33e joueur mondial, le Serbe a remporté le premier set 6-3 avant de se rendre jusqu'au jeu décisif dans la deuxième manche, remportée 7-6 pour éclipser le Brésilien.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur le 50e anniversaire du Voting Rights Act aux États-Unis. La loi garantissant l'accès des Africains-Américains au vote. Une victoire pour Martin Luther King. Mais 50 ans après, les minorités sont-elles toujours confrontées à des restrictions? La lutte pour le droit de vote, quelle inspiration pour l'Afrique? Que reste-t-il à faire? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ici Washington, Camille Gros Didier pour présenter les dossiers du jour. Le Burundi à la croisée des chemins. Les Nations Unies décrivent un pays avec le risque de violences importantes. Le risque que la situation au Burundi échappe à tout contrôle est de fait tout à fait réel. L'ONU appelle au dialogue inclusif pour forger une nouvelle loi pour le pays. Eric Manirakiza a joint à New York Stéphane Dujarric, un porte-parole de l'ONU.
La situation effectivement au Burundi est très instable. Il y a bien sûr une impasse politique. Le représentant spécial du secrétaire général pour les Grands Lacs, Saïd Djinnit, s'est joint à ses collègues de l'Union africaine, des États-Unis, de l'Europe et d'autres pays pour appeler au calme et pour encourager le leadership et tous les citoyens de faire tout ce qu'ils peuvent pour prévenir d'autres violences. Nous avons condamné très fermement les attaques que nous avons vues récemment contre des dirigeants politiques et militaires, mais aussi contre des journalistes et aussi contre des défenseurs des droits de l'homme. Et il est clair que le Burundi aujourd'hui a besoin d'un processus politique qui est soutenu par la communauté internationale.
En dehors du respect de l'accord d'Arusha, peut-on imaginer une autre voie?
Écoutez, je crois que c'est vraiment, je dirais, la communauté politique a aussi à la société civile de se mettre ensemble, de décider l'avenir de leur pays. La communauté internationale, à travers les efforts de l'Union africaine, de la communauté de l'Afrique de l'Est et des Nations Unies, sont là pour aider ce dialogue et pour aider ce processus. Mais il est clair qu'il faut que cette violence s'arrête et qu'il y a effectivement des risques de dérapage.
L'ONU est signataire de l'accord d'Arusha. A-t-elle les moyens de le faire respecter finalement? Et que répondez-vous à ceux qui voient l'inaction de la communauté internationale dans son ensemble, conséquence de la crise actuelle?
C'est aux signataires de l'accord de le respecter. Le Conseil de sécurité est saisi de ce dossier, le suit de près. Et je crois qu'encore une fois, ce qui est important, c'est de redémarrer un processus de dialogue politique entre le gouvernement, l'opposition et bien sûr la société civile.
Dans les quartiers de Bujumbura, ce sont les Kalachnikovs qui s'expriment toutes les nuits. La guerre est en pratique déjà déclenchée. Est-ce que finalement, ça va se jouer sur les rapports de force?
Écoutez, je crois qu'il ne faut pas que ça se joue sur les rapports de force. Il faut que ça se joue sur le dialogue et sur la compréhension entre les différents groupes.
Selon un haut gradé de l'armée qui s'est confié à VOA Afrique, sous anonymat, le pire peut arriver et les menaces fusent de partout.
Non, je n'ai pas vu ce dernier rapport.
Il y a des voix qui se sont exprimées, qui disent que ce n'est plus l'heure des recommandations, mais plutôt le moment d'agir.
Écoutez, je crois qu'il faut bien sûr agir, mais cette action doit se traduire par un vrai dialogue politique.
Stéphane Dujarric, porte-parole de l'ONU. En République démocratique du Congo, le militant de la Lucha, porté disparu samedi dernier, a été libéré. Bienvenu Matumo affirme avoir été arrêté et avoir passé 4 jours dans le cachot de l'ANR, l'Agence nationale du renseignement congolais. Eddy Issongo a pu le joindre.
En me libérant, on a dit que c'était pareil. Et que sinon, j'avais aucun problème avec les vendeurs. Apparemment, on m'avait confondu, alors c'était pareil comme me recherchait, mais bon, j'avais pas quelqu'un pour me rechercher.
Comment vous ont-ils arrêté? Vous étiez dans une réunion de ce qu'on appelle les parlements de jeunes.
On avait déjà fini la réunion. Moi, je suis prêt pour prendre mon taxi. Et comme j'avais déjà rendez-vous avec quelqu'un qui m'appelait au téléphone, je suis dit. Et à ce moment-là, avec lui, qui m'a pris à la main et il m'a amené avec ses collègues jusqu'au locaux de la mer.
Comment vous ont-ils traité pendant que vous étiez en détention à l'ANR?
Je n'ai subi aucune torture, moi encore un mauvais traitement. C'est que si je me suis conformé aux règles de l'ANR.
Vous ont-ils soumis à quelques interrogatoires musclés?
Je n'étais pas musclé du tout, mais quand même, comme moi je suis passé de la lutte, je suis passé par la lutte avant de venir à l'ENA, une convention d'admission. Je voulais savoir plus sur les relations avec les de la Lucha ou alors avec Fred Bahoum qui est détenu à la prison de Makala. Donc on voulait savoir tout ce lien. Et moi, je démontrais que c'était un ami. Et puis, à la fin de la journée, c'est 15h, bon, les autorités de la mer, c'est pas obligé important de me libérer parce que je n'étais pas la personne de rechercher. Je n'avais aucun problème avec la mer.
Est-ce que vous aviez demandé d'être en contact avec un avocat?
Moi-même, je ne sais pas si c'est par un avocat, mais quand même, je n'étais pas menacé avec les questions.
Vous sentez-vous maintenant intimidé avec cette arrestation?
Moi, je pense que le service en fait le travail de vouloir traiter de moi ce point de corruption, de vérifier s'il y a un lien particulier avec le mouvement. Et comme il me l'a dit, je n'ai aucun problème avec eux. Donc, je ne me retiens plus de risque, mais moi, je suis libre. Je ne suis pas intimidé.
Bienvenue, Mathieu Mou, qui était joint à Kinshasa.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Ici Washington, les militaires camerounais ont sauvé 72 enfants détenus dans une prison traditionnelle illégale à Ngaoundéré, dans la région de l'extrême nord du pays. Je vous propose de suivre le reportage de notre correspondant Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé.
Ousmaïla Ibrahim, âgé de 45 ans, est l'une des personnes victimes de la séquestration illégale. Il en a souffert pendant 4 longues années. Selon lui, les 50 enfants âgés de 7 à 19 ans, 22 adultes, dont 2 femmes, ont subi un traitement inhumain. Tous étaient enchaînés et avaient droit à l'eau et à la nourriture une fois par jour. De plus, ils se lavaient une fois tous les 3 mois. Leur bourreau justifiait que cette pratique est en phase avec les principes de l'islam.
C'est quelque chose qui ne s'explique pas. La religion n'a jamais dit ça. Que les gens ne se cachent plus derrière la religion pour faire les mauvaises choses.
Le gouverneur de la région de l'Adamawa a fermement condamné cet acte ignoble. Abaka Ahmad a par ailleurs promis aux victimes que justice les sera rendue et que des mesures préventives seront prises pour éviter que de telles déviances ne se reproduisent dans l'avenir.
Il y a beaucoup de problèmes qui se posent à cause de notre position géographique, ce qui nous impose une vigilance de tous les instants, ce qui nous impose la multiplication de stratégies pour s'adapter à la nouvelle donne.
L'islam ne reconnaît pas de telles pratiques et les parents se doivent de rester très vigilants pour mettre les progénitures à l'abri de ce type d'atrocités, surtout dans un contexte marqué par l'enrôlement d'enfants par la secte islamiste Boko Haram, a prévenu l'imam de la mosquée de Ngaoundéré, Baba Moussa.
Les parents disent ils envoient l'enfant à l'école pour aller apprendre, mais il dit à l'enseignant, s'il est têtu, il faut le corriger. Oui. Il dit ça. Mais, bien entendu, même dans cette correction, il ne faut pas que ce soit atroce, quoi. Il ne faut pas brutaliser très, très fort les enfants. Il faut les corriger de telle façon qu'ils ont un peu peur pour pouvoir, n'est-ce pas, apprendre. Voilà.
Les parents des enfants brimés sont aussi aux abois. Ils disent avoir envoyé les enfants pour un apprentissage du Coran avec possibilité de correction. Mais il existe un grand fossé entre correction et torture, comme le témoigne Saïd Abdurrahman.
Certains parents ne connaissent pas les véritables fondement de leur religion, je parle de l'islam. On envoie des enfants pour aller apprendre le Coran, et surtout les enfants qui ne sont pas obéissants, en fait, dans leur maison. Et les enseignants là ne sont pas des savants. Oui, c'est des choses qui sont interdites. Il faudrait que autour de soi, on les dénonce et que le ministère public prenne charge de ce genre de comportement.
Le responsable de ces pénitentiaires d'un autre genre est aux arrêts. Il a confessé avoir des liens avec certains dignitaires musulmans au nord du Niger. Fief de Boko Haram. Il y a de cela 8 mois en Ngaoundéré, il persuadait les parents dont les enfants étaient récalcitrants à les envoyer chez lui pour un réarmement moral. Moki Edwin Kinzeka Yaoundé pour VOA Afrique.
En prélude à la prochaine réunion du comité de suivi de l'accord pour la paix au Mali, les mouvements qui se disent exclus viennent de mettre en place la coordination des mouvements signataires prônant l'inclusivité de l'accord du 15 mai 2015. Le point avec Kassim Traoré.
Ils sont au total 6 mouvements à se donner la main pour mettre en place la coordination des mouvements signataires prônant l'inclusivité de l'accord du 15 mai 2015, appelé COPIS 2015. Mohamed Ousmane Agmohamedoun, secrétaire général de la coalition des peuples de l'Azawad, CPA.
Nous avons initié la coordination des mouvements signataires prônant l'inclusivité dans le but de préserver le caractère inclusif de l'accord. Nous avons constaté que depuis la signature de l'accord, il y a des habitudes qui s'installent. Des habitudes, on a eu l'impression que certains pensent qu'avec la signature de l'accord le 15, c'est un gâteau qui est servi et qu'il faut réduire les invités à la table. Nous ne sommes pas de cette façon de voir.
La COPIS et ses membres veulent se faire entendre des autorités maliennes, la médiation et la communauté internationale. Mohamed Ataïb Sidibé, président du mouvement Ganda Iso.
Des grands mouvements de la plateforme travaillent à enlever des communautés entières. Lorsqu'on exclut un mouvement entier, un mouvement, on exclut tous les oreilles du processus ou tous les peuples. On a alerté l'opinion nationale. On n'a pas eu de satisfaction. Demandez aux partis s'ils ont la volonté vraiment d'aider le Mali pour lequel on s'est battu, qu'ils acceptent leurs frères d'armes qui se sont battus et qui ont perdu.
Pour les membres de cette nouvelle coordination, il faut que le contenu de l'accord soit respecté sans aucune violation. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, secrétaire général de la coalition des peuples de l'Azawad.
Pourquoi maintenant on nous bloque au comité de suivi pour une soirée de SEMA et plateforme? Non, et ça c'est l'article 65. Donc les textes sont clairs et ce n'est pas le moment de violer l'accord. C'est pas maintenant qu'on veut exclure les gens qu'on va toucher les fondements qui constituent les caractères exclusifs. C'est dangereux pour les pays et on dit non à cela. La COMPIS 15 dit non à l'exclusivité. Cet accord doit demeurer inclusif. Les parties sont connues, il n'y a pas de secret.
Tout en dénonçant les attaques terroristes et djihadistes de ces récents jours, la COPIS, selon ses leaders, pense que la nature a horreur du vide.
On a dit qu'il devait y avoir des unités mixtes pour patrouiller, pour sécuriser les populations. Mais il n'y aura pas de sécurité sans ça. La sécurité ne viendra pas avant la mise en œuvre de l'accord. On doit commencer par là. La nature a horreur du vide. Nous ne sommes pas là où ces gens-là sont, alors ils vont profiter. Alors il faut créer les conditions telles que prévues par l'accord pour qu'il y ait une synergie d'action entre les acteurs qui ont signé l'accord et l'armée malienne et les forces pour qu'on coordonne et qu'on assure la sécurité et la quiétude de nos populations.
Le but de cette nouvelle coordination est de tout faire pour ne pas être exclu du processus de suivi de l'accord pour la paix au Mali, dont la prochaine réunion du comité de suivi est prévue dans la capitale malienne pour le 24 août. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et enfin, le Bénin est secoué par un scandale de détournement de fonds publics. Des fonds qui avaient été investis par les Pays-Bas et qui étaient destinés à donner un coup de pouce à la politique d'assainissement et de fourniture d'eau potable. Les précisions avec Ginette Fleur Adande, notre correspondante à Cotonou.
Et moi, consternation et récrimination furent au rendez-vous quand s'ébruita le scandale dit du projet pluriannuel du secteur de l'eau et de l'assainissement PPEA2. Sommé par les Pays-Bas de tirer l'affaire au clair, le Bénin a recouru au service du cabinet Kroll qui s'est dépêché de mener les investigations pour un résultat dont les conclusions ont été rendues publiques par l'auditeur général du gouvernement.
Monsieur Rémi Kodo a eu à prendre 729 millions et monsieur Rox Arenieri 1,602 milliards à travers des sociétés fictives et naturellement avec une complicité démontrée et soutenue et argumentée par le cabinet de tout le personnel ou du moins les gros dirigeants non seulement de la Direction Générale de l'Eau mais aussi au niveau du ministère de l'Énergie et de l'Eau d'alors.
Et depuis, les initiatives se multiplient au niveau du gouvernement. Déjà, les agents permanents de l'État dont les noms sont cités dans cette affaire ont été suspendus de leurs fonctions et le ministre de l'Énergie et de l'Eau d'alors, aujourd'hui député, pourrait perdre son immunité afin d'être écouté sur cette affaire dans laquelle il est nommément cité. Dans le rang de la société civile, les réactions sont diverses. Si certains applaudissent la promptitude du gouvernement, d'autres se désolent de la honte que constitue ce scandale de trop.
Qui dénonce qui? Tu es mon patron et je sais que tu es trempé dans un certain nombre de choses. Je sais et j'obéis. Dès lors que lui prend, moi-même je prends. La corruption s'est enracinée en dépit de ce que nous sommes conscients que c'est une gangrène. C'est comme un sport national.
Enfin, une mesure qui va dans l'intérêt général pour décourager à jamais ce que je peux appeler les délinquants de la République qui s'amusent avec les fonds publics.
Maître Kato Atita, avocat à la Cour, trouve que le droit à la présomption d'innocence et le droit à la défense sont en train d'être bafoués par le gouvernement.
Lorsque dans une affaire comme celle-ci, vous ne tenez pas compte des ramifications de ces deux principes cardinaux, je ne sais pas ce que peut être la suite. Moi, j'ai des craintes, énormément de craintes. Des avocats existent dans le pays. Il y a une grille de sanctions pour le fonctionnaire.
Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers le Parlement qui doit décider de la levée de l'immunité ou non de l'honorable Barthélémy Kassa, ministre de l'Énergie et de l'Eau, dont le nom est cité dans cette affaire. Ginette Fleur Adonné de Cotonou pour VOA Afrique.
Voilà, ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Arbertson, au micro Camille Grosdidier. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com. Et entre-temps, une très bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.